Je vais prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier pour ton esprit qui est en nous et qui illumine cette parole. Je te prie de nous instruire maintenant par ce que nous allons lire et méditer ensemble. Que tu puisses transformer nos vies à ta gloire. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, à toutes. Bonne année, hein. C'est de convenance, c'est comme ça qu'on dit quand on passe dans une nouvelle année. Nouvelle année, nouveau défi, et ce matin j'aimerais vous partager un défi. On n'est pas encore dans une série de prédications, on va commencer une série de prédications prochainement, mais aujourd'hui un petit peu un hors-série. J'aimerais parler avec vous d'un phénomène qui dure depuis 2000 ans. C'est le phénomène de la propagation de la foi chrétienne. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que la foi se propage dans l'histoire? Alors, on pourrait donner plusieurs réponses. On pourrait citer ce verset qui est là, hein, sur le mur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce serait une réponse correcte. Bien sûr, la foi vient de la parole de Dieu. Mais on pourrait donner un petit peu une autre facette à cette réponse. La foi, elle est transmise par des hommes et des femmes qui la transmettent à des hommes et des femmes de la génération suivante, qui la transmettent à des hommes et des femmes de la génération suivante. Ça fait 2000 ans que ça dure. Vous savez comment l'évangile est arrivé ici, à Genève ? On ne sait pas exactement pour tout vous avouer, hein, c'est pas très précis, mais on a des hypothèses. Jésus-Christ, avait lui des disciples. Un de ses disciples s'appelait Jean. Et après, on connaît moins bien l'histoire parce que c'est plus dans la Bible, hein, mais malgré tout, on a des écrits historiques qui nous en parlent. Un de ses disciples, c'est un monsieur qui s'appelait Polycarpe. Lui, il a exercé un ministère essentiellement dans l'actuelle Turquie. C'était un des disciples de Jean. Et puis lui, il a eu aussi à cœur de transmettre la foi à d'autres. Un de ses disciples de Polycarpe, c'était un monsieur qui s'appelait Irénée. Et Irénée, il a été envoyé à l'époque, hein, c'était au IIe siècle, il y a 1800 ans, hein, il a été envoyé dans la région de Lyon. Et c'était un homme qui avait vraiment à cœur la mission. Et c'est un homme qui a eu un rayonnement immense encore aujourd'hui. Et il a envoyé plusieurs de ses disciples dans plusieurs villes des alentours. Peut-être qu'il a envoyé un missionnaire ici à Genève. En tout cas, on a des traces très tôt de chrétiens ici à Genève. Et puis, ses disciples ont transmis la foi à d'autres, qui ont transmis la foi à d'autres, qui ont transmis la foi à d'autres. Puis peut-être, je sais pas, 60, 80 générations de disciples plus tard, y a nous. Nous qui avons reçu l'évangile, de quelqu'un, une personne, peut-être deux, trois, quatre personnes, qui ont été là et qui nous ont un petit peu pris sous leur aile pour nous transmettre la foi, afin que nous soyons à même de la transmettre à d'autres. On se rend compte que cette parole transmise de génération en génération, c'est pas juste une information désincarnée. Ce sont des hommes et des femmes qui comprennent, qui s'engagent et qui transmettent la foi à d'autres. Alors tu peux mettre le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est ça, simplement « Transmet ». Et on va lire un chapitre dans la deuxième épître de Timothée. Le texte va être affiché à l'écran, donc si vous voulez le chercher dans votre Bible, vous pouvez, mais sinon vous pouvez simplement le lire à l'écran. Il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui parlent de ce phénomène de la transmission de la foi. Mais Un des cas d'école, on pourrait dire, c'est la relation entre Paul et Timothée. Paul, il a pris Timothée sous son aile à Lystre, au tout début de son deuxième voyage missionnaire. Vous pouvez lire ça dans le livre des Actes. Et puis, Timothée était déjà un disciple, il était déjà chrétien à ce moment-là. Donc, Paul n'a pas participé à la conversion de Timothée. Mais par contre, il l'a vraiment poussé, il l'a accompagné pour qu'il grandisse en maturité, qu'il prenne des responsabilités. Et puis, il a vu des choses extraordinaires. Il a fait tout le deuxième voyage missionnaire avec Paul. Il a vécu plusieurs implantations d'églises avec Paul. Il a été avec Paul à Corinthe. Il a été avec Paul à Éphèse, probablement. Il a été co-rédacteur de plusieurs épîtres du Nouveau Testament. Si vous lisez les lettres du Nouveau Testament, on voit qu'il est mentionné dans les rédacteurs de plusieurs épîtres, de 2 Corinthiens, de Philippiens, Colossiens, 1-2 Thessaloniciens, Philémon. Donc on voit un homme qui a vraiment été pris par Paul pour le faire avancer, pour le faire grandir. Et puis là, on est un petit peu à la fin de la vie de Paul. Paul écrit à son disciple Timothée. Il écrit un petit peu ses dernières instructions. Il lui dit, « Toi donc, mon enfant. » Et voilà comment il va encourager son disciple à poursuivre sur la lancée qu'il lui avait donnée. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philète. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent. Porteuses de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononcera le nom du Seigneur et qui se détourne du mal, qu'il se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont dans un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Sinon, quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au nom du Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides. Sache qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà les... On n'a pas lu toute la lettre, mais on a lu là un petit peu une partie assez centrale. Voilà un peu le package de ce que Paul veut laisser à son disciple. Ils ne vont probablement jamais se revoir, hein. Il le dit, hein. Il est dans le texte qu'on a lu là, hein, il le dit, il est dans les chaînes, probablement emprisonné à Rome, probablement qu'il va mourir martyr quelques temps après la rédaction de cette lettre. Et Paul, conscient de cela, écrit ses derniers mots à son disciple, à celui qui était probablement son plus proche collaborateur. Et il va lui dire trois choses. En tout cas, on va résumer cela en trois choses. Il dit beaucoup plus que trois choses, mais on va résumer en trois choses, trois impératifs que Paul laisse à son disciple. Premier point, Paul dit à Timothée, transmet. C'est le verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins. Qu'est-ce qu'il avait entendu? C'était gigantesque. Timothée était resté probablement avec Paul un an et demi à Corinthe, alors que Paul enseignait les fondements à l'Église. Il était probablement resté 2 ans à Éphèse, alors que Paul enseignait là aussi les fondements à l'Église. Il avait, comme j'ai dit, co-rédigé pas mal des lettres du Nouveau Testament. Il avait une connaissance très étendue de ce que Paul lui avait transmis. Ce n'était pas juste quelques phrases. C'était une somme immense de choses qu'il devait à son tour transmettre. Mais vous avez remarqué que Paul ne se limite pas simplement à la transmission. Mais il va un peu plus loin. Il lui demande de transmettre pour que ceux qui recevront puissent transmettre à leur tour. Il y a vraiment une logique là de multiplication. Paul, il dit, il faut que tu transmettes ça jusqu'au point où ces personnes seront capables de le transmettre encore à leur tour. Timothée a bien fait son travail, manifestement. Ça fait 2000 ans que ça dure. Le christianisme s'est répandu à une vitesse remarquable grâce précisément à cela. Parce que, les apôtres, premièrement, et puis ensuite les premiers chrétiens au 1er siècle et au 2e siècle, ont fait exactement ça. Ils se sont saisis de toutes les vérités bibliques. Ils les ont transmises à d'autres jusqu'au point où ces autres pouvaient les transmettre plus loin. Mais il y a un verset 1. Avant le verset 2, vous avez remarqué, où est-ce que Timothée doit puiser pour pouvoir transmettre? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Là, c'est vraiment le socle. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Souviens-toi que tu es pécheur. Souviens-toi que Jésus est mort pour toi. Il t'a fait grâce pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Et sur cette base-là, tu vas pouvoir transmettre tout ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins à une 2e génération qui la transmettra à une 3e génération. Probablement Timothée n'imaginait pas que 2000 ans plus tard, la 80e génération serait encore en train de lire ses paroles. Mais malgré tout, on voit que Paul commence en disant à son disciple, transmet. Puis là, on passe au 2e impératif. C'est un petit peu une baffe quand on lit ça. Le 2e impératif, c'est souffre. Vous avez remarqué, c'est le début du verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On ne s'attendrait pas à ça. Quand on lit le texte, on passe du verset 2 au verset 3. On se dit, c'est génial, on va être victorieux, on va transmettre la foi de génération en génération, ça va être super. Et puis tout à coup, Paul souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est comme si Paul voyait un petit peu un lien pour Timothée entre le fait de transmettre et le fait de souffrir. En tant que disciple de Jésus, tu vas devoir souffrir. Souffrir pourquoi? Il y a plusieurs raisons que Paul évoque ici. Premièrement, il lui dit, tu vas souffrir par obéissance. Il utilise l'image du soldat. Hein, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre par obéissance. En tant que chrétien, c'est notre cas aussi, hein, nous avons un maître, Jésus-Christ. Et on n'a pas trop l'habitude de parler du fait d'être disciple comme cela, mais en fait, être disciple, c'est être un soldat. C'est être prêt à servir notre maître. Être prêt à servir Jésus-Christ. Je n'ai pas une grande expérience militaire, mais une toute petite. Moi, j'ai fait 6 mois de service militaire dans l'armée suisse. Et je pense que l'armée suisse est vraiment rien en comparaison des armées qu'il pouvait y avoir au 1er siècle. Donc l'image devait être encore beaucoup plus saisissante pour Timothée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais c'est vrai, ça peut être parfois une souffrance. Et on doit, ça va être développé plus loin, on doit un petit peu oublier sa propre volonté pour servir la volonté de celui qui nous a enrôlés. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc il lui dit premièrement, souffre par obéissance. Mais deuxièmement, il lui dit, souffre en pensant à la récompense. Cette récompense, c'est la résurrection. Paul, il emploie 3 images, vous avez remarqué, hein, c'est dans les versets 4 à 6. Le soldat, qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, il y a souffrance, hein, le fait de ne pas s'embarrasser, de ne pas avoir vraiment d'intimité, de ne pas avoir d'effet personnel, le fait de ne pas s'embarrasser des affaires de la vie courante, c'est une forme de souffrance. Mais pourquoi ? Pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Parce que derrière, il y a une récompense. Deuxième illustration, hein, c'est l'athlète. L'athlète, il va devoir combattre en fonction des règles. C'est une souffrance. Il y a une contrainte. On ne peut pas user de ruse ou que sais-je. On doit, en tant qu'athlète, se soumettre aux règles. Mais pourquoi ? Pour qu'il soit couronné. Il y a une promesse. Le cultivateur, il doit travailler dur. C'est une souffrance. Mais pourquoi ? Pour être le premier à récolter le fruit de son travail. Et puis, au verset 8, Paul conclut en disant, souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. Donc, tu souffres, mais il y a comme un but, il y a comme une lumière. Tu souffres, mais il y a une récompense derrière cette souffrance. Et ça, c'est une source de motivation forte. Donc, tu souffres par obéissance. Tu souffres aussi avec en vue la résurrection. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité. Et puis troisièmement, tu souffres pour les perdus. Il le dit, hein, je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Et puis il va dire, hein, c'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Paul est prêt à souffrir pour le bien de ceux qui vont être sauvés en entendant l'évangile. Donc souffre pour les perdus, souffre par obéissance, souffre pour la résurrection, souffre pour les perdus. Voilà ce que Paul transmet ici à Timothée. Et puis après, il y a les versets 11 et 12, où il y a une sorte de transition. Paul passe de cette idée de la souffrance à une prochaine idée, qu'on va voir tout de suite. Cette parole est certaine, hein, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et là, j'ai lu dans une autre version, c'était « si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. » Donc on voit là, ça a trait à ce qu'on a vu juste avant. Hein. Si nous mourons, nous vivrons avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Et puis ensuite, Paul glisse vers le thème suivant. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Quelque chose de sérieux ici. Hein. Certains ont pensé que quand Paul écrit si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Certains ont lu ça un petit peu comme une bonne nouvelle, comme le fait que si moi je suis pas à la hauteur, Jésus permet que je sois pardonné. Et ça c'est vrai, mais je pense pas que c'est ce que Paul dit dans ce texte. Je pense que Paul est en train de dire que si nous sommes infidèles, donc si nous nous éloignons de Dieu, lui reste fidèle. Fidèle à sa parole, fidèle à ses jugements. Et ça doit plutôt susciter la crainte, cette parole de Paul qui dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous nous éloignons, lui, il reste fidèle au poste, conformément à sa parole et conformément à ses jugements. Et ça initie ce que Paul va dire jusqu'à la fin du chapitre. Il dit à Timothée, sois pur. Premièrement, il a dit transmet. Deuxièmement, il a dit souffre. Et puis troisièmement, maintenant, il lui dit sois pur. Seulement, il ne faut pas imaginer la pureté. Parfois, on imagine la pureté comme... c'est un petit peu un travers qu'on a, je pense, dans nos milieux évangéliques. On restreint la pureté à la question de la pureté sexuelle. Mais en fait, Paul ne parle pas de la pureté sexuelle ici. Enfin, peut-être qu'il en parle, mais dans un deuxième temps. Dans un premier temps, Paul parle d'être pur dans ce qu'il transmet, dans ce qu'il enseigne. Il lui dit, vas-y, Timothée, sois courageux, sois pur dans ce que tu vas transmettre. Il lui dit, par exemple, au verset 15, par rapport à tous ceux qui se livrent à des disputes de mots, il lui dit, toi, de ton côté, expose avec droiture la parole de la vérité. Il lui dit que si tu veux être un objet d'or ou d'argent, il faut se purifier de ces choses pour être un vase d'un usage noble, sain et utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Il est en train de dire à Timothée, sois pur dans ce que tu transmets aux autres. Et puis, là aussi, on peut distinguer plusieurs éléments. Il lui dit, sois pur à cause du jugement. À cause du jugement. Si nous le renions, lui nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Et puis, c'est justement là qu'il dit, rappelle ces vérités aux croyants en le suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. On va être jugé en fonction de ce qu'on aura fait. Et ça doit... Ça nous montre le sérieux de notre mission en tant que disciples. Il y a derrière cela un jugement. Il y en a qui seront des vases d'or et d'argent dans la maison, et il y en a qui seront des vases de terre dans la maison, de bois et de terre dans la maison. À cause de ce jugement, sois pur, Timothée. C'est ça que Paul lui dit ici. Et puis, deuxièmement, il lui dit, sois pur à cause du jugement, sois pur face aux adversaires. Il est très clair, hein. Par exemple, au verset 25, il doit corriger avec douceur les adversaires. Il lui dit qu'il doit, il va devoir éviter les bavardages, éviter les disputes de mots. Il va devoir rappeler des choses aux chrétiens dont il a la charge. Il va devoir fuir les passions de la jeunesse, rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix. Donc, il lui dit, sois pur face aux adversaires. Ne fais pas de concessions par rapport à la vérité. Reste dans toute la vérité. Hein. Expose avec droiture la parole de la vérité. Mais en même temps, Paul lui dit, sois pur en étant bienveillant. Il lui dit, le but, c'est pas de démolir des gens. Mais il le dit bien, hein. Il doit au contraire, ça c'est au verset 24, il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur, parce que peut-être que l'adversaire, en étant corrigé, reviendra à Dieu et revenu à leur bon sens. Ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc il y a une sorte d'équilibre. Hein. Soit pur en dénonçant ce qui est faux, soit pur face aux adversaires en disant la vérité, mais en même temps, soit pur en étant bienveillant, en étant patient, en amenant les personnes à réfléchir et à changer d'attitude. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Transmet, souffre, sois pur. Et puis maintenant, on fait un petit peu un saut. Ces paroles, elles sont destinées à Timothée. Paul les écrit pour Timothée dans une situation spécifique au 1er siècle. Dans une situation où Timothée était un responsable d'église, il était un enseignant régulier. Et du coup, il y a des problématiques particulières qui sont celles de Timothée. Et on ne peut pas juste, de manière directe, prendre ce texte pour nous. Mais quand même, nous sommes dans cette chaîne. Nous avons reçu la foi et nous sommes appelés, par bien des textes dans le Nouveau Testament, à transmettre la foi à d'autres. Donc cette relation et ces conseils que Paul donne à Timothée, ils doivent nous inspirer. Même si nous ne sommes pas Timothée, nous vivons un petit peu les mêmes réalités. Et même si on est un peu plus loin dans la chaîne de transmission de la foi, Paul nous dit en quelque sorte, en deuxième lieu, il nous dit ces choses à nous aussi. Transmet, souffre et sois pur. Transmet, premièrement. J'aimerais vous faire un petit peu rêver ce matin. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre la foi à toute la population de Genève? Combien de temps ça met? Allez, 14 ans. On se le fait en 14 ans? C'est une simulation. Ça n'arrivera très probablement pas. Mais quand même, ça nous permet de voir les choses un petit peu différemment. Si en sortant de cette salle, on va dire qu'on est à peu près une centaine là dans la salle, peut-être un petit peu moins, mais c'est pas grave pour l'exercice, ça va pas changer grand-chose. Si en sortant de cette salle, on prend tous ensemble, chacun d'entre nous, la ferme décision de prendre avec nous quelqu'un sous notre aile pour l'année 2020, et de se dire, on va vraiment vivre avec cette personne, on va vraiment lui enseigner, lui montrer tout ce qu'est la vie chrétienne, en vue qu'à la fin de l'année, elle soit capable elle-même de le transmettre aussi à d'autres. Vous allez me dire, peut-être une année c'est court, hein. C'est pas grave, c'est juste pour l'exercice. Mais vraiment, on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention dans une personne. On va commencer l'année 2020, on va être à peu près une centaine de disciples. Et puis, à la fin de l'année 2020, il y aura une autre centaine qui sera aussi capable d'engendrer le même processus pour l'année 2021. Ce qui fait qu'en 2021, il y aura 200 disciples qui entameront le processus que nous aurons entamé aujourd'hui. Ce qui fait qu'en 2022, il y aura 400. En 2023, il y aura 800. Vous comprenez la logique? En 2024, il y aura 1600. En 2025, il y aura 3200. En 2026, 6400. En 2027, 12800. Après, j'ai arrondi parce que ça ne servait à rien de garder tous les chiffres. Hein. 25 000 en 2028. 50 000 en 2029. 100 000 en 2030. 200 000 en 2031. 400 000 en 2032. Et 800 000 en 2033. 800 000, c'est à peu près la population du Grand Genève. Hein. Je ne parle pas juste de la ville ou du canton de Genève. Canton de Genève, c'est 400 000. Là, c'est vraiment le Grand Genève, hein, si vous prenez toutes les communes alentour. En 14 années, avec ce processus-là, on peut transmettre la foi à toute la population du Grand Genève. Et puis, on l'aura fait en prenant vraiment du temps pendant une année entière pour former une personne et lui transmettre la foi. Alors bon, en fait, on peut faire des simulations comme ça, mais on n'est pas vraiment maître de ça, parce que ce n'est pas nous qui allons engendrer la réponse des personnes. Le but de ça, c'est pas de dire voilà notre cahier des charges pour les 14 prochaines années, on va faire ça. Le but de ça, c'est plutôt de nous faire réfléchir à la force de ce processus. Le christianisme s'est répandu d'une manière fulgurante dans les premières décennies de son histoire. Pourquoi ? Parce que justement, 12 disciples ont commencé de transmettre la foi à d'autres, et puis ça a été exponentiel. Très rapidement, l'évangile s'est étendu. C'est un phénomène qui serait encore possible aujourd'hui, bien sûr. Ça dépend de Dieu, hein, ça dépend de son esprit qui agite nos cœurs pour que nous entrions dans ce genre de projet. Mais c'est quelque chose qui est du domaine du possible. Et j'espère que cette petite simulation, ça nous encourage, ça nous motive à nous lancer dans ce genre de projet. Et j'aimerais vous proposer deux petits outils. Si vous vous dites, ouais, moi aujourd'hui j'aimerais me lancer, j'aimerais prendre quelqu'un avec moi et puis l'accompagner en tant que disciple de Jésus. Le premier outil, c'est ce petit carnet, s'appelle Méditation, vous l'avez déjà vu, il y en a plusieurs qui l'avaient déjà. C'est un petit carnet qui sert à lire tout le Nouveau Testament avec un partenaire de lecture en une année. Les disciples, ce n'est pas forcément des gens qui ne sont pas encore chrétiens. Ça s'adresse plutôt à des gens qui sont déjà chrétiens, mais peut-être un chrétien un peu plus jeune que vous. Et vous dites, bah ouais, moi j'aimerais te proposer, si tu veux, de lire tout le Nouveau Testament en un an. Ce n'est pas énorme, hein. C'est 3-4 minutes de lecture chaque jour. Et puis toutes les deux semaines, vous vous rencontrez avec votre partenaire de lecture et vous passez une heure à en discuter de ce que vous avez lu. Ce qui fait que dans un an, à la fin de l'année 2020, vous aurez lu tout le Nouveau Testament et vous aurez passé 24 heures à en discuter avec votre partenaire de lecture. Ben là, c'est du discipulat, là, hein, mes amis. La personne avec laquelle, vous-même déjà, mais la personne avec laquelle vous allez faire ça va faire un bond dans sa connaissance de la Bible, dans sa connaissance de Dieu, fulgurant. Bon, malheureusement, j'en ai plus de ces petits carnets, donc je peux en recommander. Si vous en voulez, venez me voir, je recommande volontiers, vraiment, il me reste celui-ci là, mais si vous en voulez, venez me voir et je recommande volontiers. Sinon, il y en aura un autre à partir du mois d'avril. Enfin, le carnet, il faut juste 3 mois, donc il y aura un autre carnet à partir du mois d'avril et puis ensuite pour les 2 autres parties de l'année. Un autre petit support, un autre petit outil, c'est cet autre carnet. Il y en a, j'en ai imprimé toute une série qui sont sur le comptoir là derrière. Ça s'adresse plutôt à des gens qui ne sont pas encore chrétiens. C'est un petit support pour faire 3 rencontres, 3 études bibliques pour des gens qui ont envie de découvrir ce que c'est le message de la Bible. C'est tout simple, ça peut s'utiliser un petit peu clé en main, mais pour nous former, pour former chacun d'entre nous, pour utiliser ce genre de petit manuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça dans les groupes de maison. Comme ça, on sera familier avec le contenu de ce petit manuel. Et puis après, le but, c'est que chacun d'entre nous, pas juste moi ou pas juste les anciens ou pas juste ceux qui sont le plus matures dans l'Église, mais chacun d'entre nous, on soit à l'aise de dire à un ami, à un collègue, « Bon, si tu veux connaître le message central de la Bible, viens, on se rencontre 3 fois, on prend un café ensemble et puis on parcourt ces quelques questions qui sont dans ce petit carnet. » Et ça va te permettre de connaître le message de la Bible de manière très succincte. Bien sûr, moi je peux faire ça avec certains. Mais si on est 100 personnes à faire ça, vous imaginez bien que l'impact sera beaucoup, beaucoup plus grand. Donc voilà 2 petits outils pour vivre la transmission en 2020. Mais Paul ne s'arrête pas à la transmission, vous souvenez ? Il dit aussi « souffre ». Et je crois que là, on doit réaliser quelque chose. On a tendance à être un petit peu trop victorieux peut-être en tant que chrétien. On se dit, c'est génial, on va aller partout, on va apporter le message de l'évangile. Et puis en fait, quand on arrive dans les situations réelles, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. Et je pense que Paul est plein de réalisme ici. Bien sûr, nos souffrances ne sont pas celles de Timothée. Timothée a sans doute vécu des souffrances bien plus importantes de la part de l'Église, mais de la part aussi de l'extérieur de l'Église, que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais quand même, cet avertissement, on doit le prendre pour nous. Souffre. Souffre par obéissance, parce que nous sommes des disciples de Jésus. Souffre en ayant la résurrection comme ligne de mire et en te réjouissant de cela. souffre pour les perdus. Comme Paul souffrait, il était enchaîné pour que ceux qui sont perdus puissent entendre l'évangile et se tourner vers Jésus. Ça va être une souffrance. Je te l'annonce. Pas besoin de te demander comment faire pour ne pas souffrir. Ça va être une souffrance, peut-être petite, peut-être grande. Tu vas peut-être essuyer des moqueries. Peut-être que ça va être une souffrance aussi dans le sens où tu vas devoir vraiment consacrer du temps, de l'énergie pour que la personne avec laquelle tu vas entamer ce processus puisse grandir. Ça va être une souffrance parce que peut-être que ça va être un échec. Peut-être que la personne va t'écouter quelques fois et puis va dire « mais ça m'intéresse pas ton truc, c'est possible ». Ça peut être une souffrance de bien des manières, mais ça vaut la peine. Parce que nous souffrons comme de bons soldats de Jésus-Christ. Parce que nous nous souvenons de Jésus, le Messie ressuscité. Parce que nous voulons que des hommes et des femmes se tournent vers lui. Et puis dernièrement, sois pur. Sois pur dans ce que tu transmets. Sois intègre. Expose avec droiture la parole de la vérité. Je crois que ça s'adresse aussi à nous. La tentation est là de transmettre un évangile un petit peu tronqué, un petit peu modifié, où on a un petit peu enjolivé ou bien arrondi certains angles. Ce que Paul nous dit, c'est de sois pur dans ce que tu transmets. Transmets droitement tout ce que tu as reçu de moi. Fais pas des raccourcis ou essaye pas de changer ce message, mais sois pur. Alors voilà que ça ce soit un mot d'ordre pour nous en 2020. Transmet. Ça, c'est un peu le chapeau, c'est le point principal. Souffre et sois pur. Je vais encore prier. Seigneur, on te remercie pour ce texte et on te remercie pour cette nouvelle année qui est devant nous. Et je te prie que tu nous motives, que tu nous encourages à transmettre la foi, à transmettre cette grâce de Jésus-Christ crucifié à notre place, pour nos péchés, pour nous libérer, pour nous réconcilier avec toi. Seigneur, ce miracle, on veut le transmettre encore aujourd'hui par amour pour toi et par amour pour les perdus. On veut que tous ceux et celles qui nous entourent puissent être avec nous dans l'éternité et dans ta présence. Seigneur, je te prie pour cette année 2020 et je te prie pour que quelques-uns d'entre nous, on puisse vraiment prendre cela à cœur, prendre sous nos ailes, peut-être des chrétiens plus jeunes que nous, ou alors certains qui ne sont pas encore chrétiens, et leur permettre de faire les premiers pas de la vie chrétienne, leur permettre de grandir avec toi. Aide-nous à être motivés et à pouvoir persévérer malgré la souffrance. Aide-nous à rester purs, bienveillant, mais en même temps sans compromis. Seigneur, je te prie de faire ce miracle dans ma vie, dans nos vies, dans notre Église, pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.